le 7-9 du week-end. Patricia Martin sur France Inter.
Le journal de la semaine sur France Inter, Pierre Veille.
Avec Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour Pierre.
La polémique sur le salaire du patron de PSA, Carlos Tavares, a gagné 5 240 000 euros en 2015, soit près du double de l'année précédente. C'est normal, dit Pierre Gattaz, le président du MEDEF.
Il faut saluer, féliciter Carlos Tavares du redressement exceptionnel qu'il a fait de PSA. Il a redressé cette société qui est en perdition, qui allait sur les rochers, c'est un cargo, bravo, remarquable. Il faut savoir que cette rémunération, c'est la rémunération de la réussite. Et en effet, il faut savoir récompenser la réussite.
Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord ?
Non. Non, parce que je trouve que ces rémunérations sont largement excessives, globalement parlant, et qu'on arrive à des sommets indécents. Mmh. Et je suis tout à fait prêt à reconnaître que M. Tavares est un excellent patron. Et il a droit à une récompense. Ça, on est d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec Gattaz. Mais moi, je propose que sa récompense soit en proportion l'augmentation qu'il a donnée à ses ouvriers. Il a effectivement donné à ses salariés une prime, c'est très bien, de 2000 euros, je crois.
Et une augmentation de salaire.
Je propose que sa rémunération à lui soit augmentée de la même proportion. Mais globalement parlant, les rémunérations des managers, je voudrais rappeler qu'un manager d'une entreprise ne risque pas son argent. C'est pas son argent. Il risque rien, en fait. Il risque juste d'avoir un parachute doré à la fin, éventuellement. Encore que chez Peugeot, ils ont enfin supprimé. Et donc voilà, je trouve que ce doublement du salaire est excessif.
Alexis Brézet, que nous dit ce salaire ? Ça fait 14 000 euros par jour.
C'est vrai que ce sont des montants faramineux qui ont quelque chose de vertigineux. Mais si on réfléchit, il n'y a absolument rien de scandaleux. Ce que dit Gattaz, c'est la rémunération de la réussite. Ce qui me paraît grave, et c'est ce qu'évoquait Laurent Geoffrin, c'est quand un patron qui s'est planté, qui a planté sa boîte, qui a mis des gens au chômage, part les poches pleines, avec des sommes parfois bien supérieures. Le prédécesseur de Tavares était, dans un premier temps, parti avec 21 millions d'euros. Ça, c'était scandaleux. Mais un type qui réussit. Moi, je me souviens de l'époque où nous, Figaro, comme Libération, on faisait des manchettes, des unes pour dire « Est-ce que Peugeot va faire faillite ?» Peugeot, c'est 50 000 personnes.
Vous avez raison, mais c'est une question de montant.
Alors, ensuite, le montant.
Le montant au-delà de 3-4 millions, c'est
stratosphérique. Le montant, évidemment, comme un des mortels, à vous comme moi, ça paraît invraisemblable. Mais le montant, c'est celui que décident les actionnaires. C'est l'argent des actionnaires. Je veux juste dire que les actionnaires ont... les actionnaires ont renoncé à tout dividende. Ils ont décidé de donner leur argent à leur manager, parce que ce manager a réussi et a augmenté la valeur de l'action. C'est le choix des actionnaires, c'est leur problème.
Est-ce que je peux me permettre un petit rappel historique? Il fut un temps où les managers de grandes entreprises, dans le capitalisme mondial, étaient rémunérés beaucoup moins que ça.
Parce qu'à l'époque, le capitalisme n'était pas mondial.
Ça marchait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y avait un taux de croissance moyen aux États-Unis, en Europe, très supérieur. Depuis l'ère Reagan, on a fait exploser effectivement la rémunération des dirigeants. Pourquoi on l'a fait ? C'est parce que les actionnaires ont décidé qu'ils devaient avoir des gens à leur botte. Et donc, ils les ont payés extrêmement cher, de manière à ce que les managers de grandes entreprises ne modèlent entièrement leur comportement sur les intérêts des actionnaires et non plus sur les intérêts...
Une des caractéristiques du capitalisme désormais mondialisé, c'est qu'on peut lui faire le reproche du fait que les actionnaires accaparent trop de valeur. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un actionnaire, il s'agit d'un dirigeant. Je voudrais juste ajouter...
Ils ont transformé ces dirigeants en mercenaires.
Est-ce que ce n'est pas un dirigeant qui est complètement déconnecté des réalités, des préoccupations
des Français?
Et les
footballeurs, et Benzema,
le chômage, l'austérité, les restos du cœur.
Est-ce que vous pensez que l'utilité sociale
Est-ce que
l'utilité sociale de Benzema est supérieure à celle de Tavares? Il doit gagner au moins 3 fois plus. Donc, à cette aune-là, on peut tout remettre en cause. Ce que je veux dire, et je voudrais juste une dernière chose, c'est que l'État, il n'y a pas un sou du contribuable dans cette affaire. Non seulement il n'y a pas d'argent du contribuable, mais l'État s'y retrouve. Car l'État a pris 14% de Peugeot, la valeur de l'action a doublé. Donc les contribuables, grâce à l'action...
Encore une fois, Tavares est un bon dirigeant.
C'est
pas lui personnellement qui est en cause, c'est le système. Ce système dans lequel les managers touchent des sommes absolument faramineuses parce qu'ils sont pieds et poings liés
aux actionnaires... Les managers ont toujours été dépendus de l'actionnaire. L'actionnaire vire les managers depuis toujours, bien ou mal payés.
Si vous regardez l'histoire du capitalisme, c'est pas toujours été le cas.
Autre sujet, François Hollande qui renonce à constitutionnaliser l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. 4 mois de débat et finalement cette reculade. Fiasco monumental, flop, désastre politique majeur, sinistre comédie, ratage, tout ça pour ça, c'est-à-dire rien. Voilà quelques commentaires dans la presse. Est-ce le signe d'une perte d'autorité du chef de l'État, Alexis Brézet ?
Bah oui, à l'évidence. nous, Figaro, on a titré déchéance d'autorité. C'est évidemment un des aspects de cette question. Il n'y a pas que celui-là. Je pense que toute cette histoire qui a duré 4 mois est catastrophique pour l'ensemble de la classe politique, qui a donné pendant 4 mois l'impression de s'intéresser à des histoires purement symboliques, pendant qu'il y a des vrais problèmes, que ce soit le terrorisme, les migrants, le chômage, la situation financière. Et donc la coupure entre la classe politique et la réalité des choses et les gens n'est jamais apparue aussi flagrante. Premier point. Deuxième point, pour François Hollande, c'est un désastre personnel et politique. Il a fait la preuve là qu'il n'avait plus aucune autorité sur rien, ni sur sa majorité, ni même sur son gouvernement. Et donc là, c'est un vrai problème. Ce qu'on comprend, c'est que c'est fini. Il ne peut plus rien faire maintenant pendant 1 an. C'est ça, encore c'est un an de perdu.
C'est le début de la fin, titrait Le Figaro cette semaine, Laurent Geoffrin.
Je pense que Le Figaro se trompe et qu'il y a toujours
Vous êtes optimiste, vous avez raison.
Oui, j'essaie de regarder les choses comme elles sont. Vous avez une majorité à l'Assemblée de gens.
Ah, évidemment, si vous leur proposez. Et qui ne veut rien voter de ce qu'on lui propose.
Oui, si vous leur proposez des mesures de droite, comme ils sont de gauche, ils vont être embêtés. Ça, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi l'erreur initiale dans cette affaire de déchéance? C'est d'avoir pris dans la panoplie de la droite une mesure qui était provocante aux yeux des élus et des responsables de gauche. C'est ça qui s'est passé. C'est le programme de la droite qui a été désavoué, y compris par la droite elle-même d'ailleurs, puisque elle a refusé
ça,
de le voter.
De la droite, oui, ça.
Oui, c'est pris
ça
dans
nous manquait.
Mais pourquoi Hollande l'a pris? C'est pour essayer d'avoir une espèce d'unanimité, en tout cas les 3/5 du Parlement, en prenant une mesure qui était dans le programme de la droite.
Il a voulu faire un coup, il s'est pris les pieds dans le tapis, qui s'est étendu lui-même sous les pieds.
Ça qui s'est pris les pieds dans le tapis, je suis d'accord.
C'est un désastre pour lui. Qu'est-ce que vous voulez?
Un compromis avait été trouvé à l'Assemblée et ça n'a pas marché au Sénat.
Oui. D'ailleurs, c'est curieux, pourquoi la droite est d'accord à l'Assemblée et pas d'accord au Sénat?
Oui. C'est curieux, hein.
Il faut leur demander, parce que le Sénat, qui était autant que vous attaché...
Je pensais que vous étiez plus proche que moi d'eux.
Le Sénat, qui est autant que vous attaché à la pensée politique de François Hollande, a voulu revenir au texte de François Hollande.
Mais non, c'est parce qu'il n'a pas
reproché au Sénat de revenir au texte de François Hollande.
Il a pris prétexte de la patridie pour...
Ils ont tous été aussi hypocrites les uns que les autres, je vais vous dire. La droite a fait semblant d'être contre la patridie alors qu'elle s'en fiche. La gauche a fait semblant d'être pour alors qu'elle est contre. Donc c'est un double mensonge.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec...
Vous savez, en politique, il y a des analyses savantes. Il y a parfois des expressions toutes simples. Ils ont fait une bêtise, voilà. Ils se sont trompés, ils ont proposé cette mesure qui ne passe pas auprès d'une partie de la gauche, minoritaire d'ailleurs, parce que dans le pays, ça passe très largement. Mais il se trouve que les militants et les responsables avaient des objections de fond à cette mesure et elle n'est pas passée.
La mobilisation contre la loi El Khomri ne faiblit pas. Beaucoup de monde dans les rues jeudi. Le gouvernement a reculé donc une fois sur la déchéance de nationalité. Peut-il reculer une deuxième fois sur cette réforme du Code du travail, Laurent Geoffrin?
Ah, il peut décider de se suicider tout de suite. C'est vrai,
politiquement. Avec cette belle majorité qui le soutient, ils vont la voter.
Politiquement, il peut dire, voilà, on laisse tomber, on fait plus rien. Non, je pense qu'ils vont, tenir le coup. C'est difficile, hein, parce que vous avez en face de vous des gens qui ont voté pour vous, donc qui sont de la même famille, au fond.
C'est quand même une semaine noire pour François Hollande, là.
Ah, elle est pas rose, oui.
Là, c'est bien de faire des mesures de droite.
Je vous le concède volontiers, là.
Sans fond, il y a aucun doute. C'est bien de faire des mesures de droite quand il s'agit d'économie.
Non, je trouve que les modifications qui ont été apportées à la loi El Khomri la rendent à peu près acceptable. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que une partie des syndicats ont considéré que c'était tout à fait possible, que la CFDT est d'accord.
La CGT, non.
C'est vrai que la CFDT est un syndicat traître, je sais pas quoi, mais bon, la CFDT est d'accord. Donc le fait de négocier au niveau des entreprises, ça, le point essentiel, c'est ça, c'est qu'on va négocier plus au niveau des entreprises qu'au niveau des branches ou au niveau de l'État. Donc cette évolution-là me paraît plutôt bonne.
Et c'est moi, même pas sûr que ça reste, parce que ce qu'il faut voir, c'est que déjà les 2/3 de la loi sont partis. Que ce soit le forfait jour, le plafond d'indemnisation pour les prud'hommes, qu'on a rajouté des trucs invraisemblables comme la garantie jeune qui est une sorte de RSA pour les jeunes, et que le peu qui reste...
C'est pas mal, ça.
Ah oui, de distribuer un RSA aux jeunes, c'est formidable. Oui, bien sûr, avec ça, on est sauvés.
Vous prenez ça d'une manière bien désinvolte.
Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien, la majorité, le peu qui reste, n'en veut pas. C'est pas tellement la rue. Bien sûr, la rue, c'est toujours un problème. Mais le vrai problème, c'est que cette belle majorité unie derrière le président de la République, dont Laurent Geoffrin nous parlait à l'instant, ne veut pas de rares mesures qui restent, qui concernent le licenciement économique ou les accords de développement de l'emploi. Donc à la fin, il n'y aura plus rien. Je vous le dis, c'est la paralysie.
Laurent Geoffrin, est-ce qu'il n'y a pas une atmosphère fin de règne?
Un peu. Oui. Vous savez, ça peut changer. Tout est suspendu, à mon avis, aux chiffres du chômage. C'est tout simple. Vous allez voir que si les chiffres du chômage baissent réellement, l'atmosphère va changer.
Alexis Brézet.
Une fin de règne, ça ne se transforme pas en début de règne. C'est une paralysie. C'est un gouvernement qui n'a plus de légitimité populaire.
Mais cela dit, pour réformer le marché du travail, comme vous l'envisagez, je vous souhaite du bon.
Ah, ça va être difficile. Le mieux, si vous avez raison.
Non, parce que les gens protestent.
Ah, mais vous avez raison.
Les gens de gauche protestent contre le gouvernement de gauche.
Il vaut mieux dire les choses avant. Il vaut mieux dire les choses avant que de faire après. Vous avez raison.
Voilà. Alexis Brézet, Laurent Geoffrin, merci beaucoup. Patricia Martin, on va parler médias.
Exactement, on va essayer.